Bonjour, aujourd'hui à mon micro, vous allez rencontrer une créatrice et directrice d'Écogite. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore un nouveau métier fascinant. Une rencontre avec une géographe, une passionnée des vieilles pierres, mais aussi des lieux naturels et agréables. Une personne qui adore le voyage, les vacances et qui est très généreuse. Je vous souhaite une bonne évasion, une bonne écoute et si c'est le cas, de bonnes vacances.
On y va.
Alors, bienvenue Marie.
Bonjour Jessica.
Et merci de venir jusqu'à ce joli gros micro. Ben voilà, on s'est croisés. Tu fais aussi, comme plein de mes invités, partie de l'association des mompreneurs. Et dans ce cadre-là, moi, je t'ai rencontrée, j'ai découvert ton activité et je me suis dit, ça, c'est pas commun. Donc, j'avais envie de t'entendre un peu me raconter ce que tu fais, comment t'en es arrivée à faire ça et comment ça se passe pour toi. Est-ce que tu peux, en deux mots, me dire c'est quoi ton...
Oui, alors je suis créatrice et directrice des gîtes de Kérouzec, qui ont la particularité d'être des écogîtes, que l'on veut cocooning, dans des lieux historiques. Donc notre slogan, ce sont des écogîtes cocooning au cœur de l'histoire.
Waouh! Et ils sont où ces gîtes?
Alors ces gîtes,
Kérouzec, ça donne
une petite touche bretonne, voilà, un petit air de la mer et de la nature. Il n'y a pas que la mer, ils sont en Bretagne Sud.
D'accord, ok. On va remonter un peu dans ton histoire à toi. Est-ce que tu peux me dire, enfant, quel genre de petite fille tu étais? Et est-ce que tu te projetais, tu sais, dans un métier? Est-ce que tu avais des rêves, enfant, de ce que tu ferais quand tu serais grande?
Alors, oui, j'avais des rêves et oui, je les ai tous réalisés en fait,
wow,
jusque-là. quand j'étais petite, mon jeu favori, et vraiment pendant des années, c'était de construire des cabanes dans la forêt.
Okay.
Voilà, j'ai grandi dans la forêt de Camor, qui est une magnifique forêt en Bretagne Sud. Et vraiment, j'avais une copine qui partageait ma passion des cabanes. Et on en faisait des villages entiers.
Wow.
Et maintenant, je ne fais plus des cabanes, je fais des éco-rénovations, mais il y a quand même un petit lien.
D'accord. Et du coup, est-ce que ça a eu un impact sur tes choix d'orientation, d'études? Tu te voyais dans la construction, l'architecture?
Non, pas du tout, mais mes études sont quand même liées, en fait, à mon activité actuelle. J'ai fait des études, alors j'ai fait différents diplômes dans différents pays d'Europe.
D'accord.
On va essayer de faire court. J'ai commencé par des études de géographie,
ouais,
et d'histoire à Rennes.
Ouais.
Donc le côté patrimoine, bâtiments historiques et le côté aménagement des villes me plaisait. D'où le choix plus tard de choisir de rénover des bâtiments historiques dans des lieux historiques. Hein, voilà. Rien n'arrive par hasard.
Et ton objectif avec cette formation-là, est-ce que tu faisais ça pour le plaisir de la matière ou est-ce que tu te projetais dans une activité?
Non, je faisais vraiment ça. J'ai choisi mes études de géographie et d'histoire pour le plaisir de la matière.
Okay.
Puis j'ai bifurqué une spécialisation en aménagement du territoire.
Ouais.
J'ai fait mon mémoire en Irlande.
D'accord.
Et j'ai travaillé sur la rénovation d'un quartier historique de la ville de Cork.
Okay.
La réhabilitation du quartier, la remise en valeur des bâtiments historiques. Donc voilà, on était toujours, on va dire, dans des thématiques proches. Et puis par la suite, j'ai fait un diplôme complémentaire en gestion des transports, donc en lien avec l'aménagement du territoire. J'ai travaillé dans ce domaine-là et dans le privé pendant 10-15 ans. La vie de famille a fait que j'ai bifurqué dans l'enseignement avec grand plaisir.
D'accord. Attends, tu vas un peu vite. Donc, ton premier job, c'est quoi?
Alors, mon premier job, c'était de travailler pour... Alors, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu deux gros employeurs, on va dire. Mais de travailler pour des organismes internationaux,
oui,
au début de ville, qui faisaient la promotion des solutions innovantes dans les transports.
D'accord.
Et concrètement, moi, je me suis retrouvée directrice financière.
Ok.
Voilà.
Et ça, c'était ton truc, les chiffres
Ouais. Ouais. J'avais hésité avec des études de maths aussi. Donc, okay. Voilà. Non, je suis à l'aise avec les chiffres, en fait. Ce qui aide hein, pour la gestion d'un business, c'est le montage de plans financiers, en fait, pour développer une entreprise. Je me suis retrouvée directrice financière à gérer des budgets conséquents qui dépassaient le million.
Ok.
Voilà. Et responsable de coordonner l'organisation de gros événements à travers l'Europe.
Ok.
Voilà.
Il y a une passion pour le voyage alors.
Oui,
ça.
Quand même, ouais. Quand même. Ouais. Dans mes emplois, voilà, je voyageais beaucoup. Ce qui posait la question de l'équilibre avec la vie de famille.
Oui.
D'où ma bifurcation plus tard. Je voyageais beaucoup, j'aimais ça, voilà, des découvertes, des rencontres. La deuxième structure internationale pour laquelle j'ai travaillé, c'était des chercheurs et des professeurs d'université qui travaillaient sur le domaine du développement régional.
D'accord.
Et là, j'étais directrice de la structure et donc je coordonnais les activités, dont les plus grosses étaient les organisations de conférences internationales. Donc ça allait de Saint-Pétersbourg en passant par... Barcelone. Mmh. Et là, c'était des conférences qui duraient quasi une semaine avec plus de 1000 personnes et les gens venaient du monde entier.
Ok.
Voilà. Et j'ai contribué à professionnaliser cette structure qui est toujours en place à Louvain-la-Neuve.
Ok, chouette. Donc à ce moment-là, tu es arrivée en Belgique ?
Non, je suis arrivée en Belgique. Alors ma première arrivée, c'est lors de ma première licence, j'ai fait un Erasmus.
Ouais.
En géographie, à Louvain-la-Neuve, je suis tombée amoureuse de la Belgique et d'un Belge. Et je suis retournée finir mes études, je suis partie en Irlande, puis je suis revenue m'installer après mes études.
Ok, donc voilà. Les deux jobs dont tu parles, il s'est passé en Belgique.
En Belgique, oui.
D'accord.
À Bruxelles, dans le milieu des institutions européennes, ouais. Et à Louvain-la-Neuve, oui.
Ok. Et alors, bifurcation vers l'enseignement, parce que...
Alors, j'avais toujours voulu enseigner, donc j'avais passé mon diplôme d'enseignante déjà des années précédentes. Mm-hmm. Ça, c'était un rêve de petite fille que j'avais.
D'accord.
Voilà, quand je dis que j'ai concrétisé mes rêves. Je l'ai fait avec plaisir et pendant une douzaine d'années.
Oui.
J'ai eu la chance de travailler dans une école créative, une école... qui était spécialisée dans l'artisanat et l'art.
D'accord.
Donc l'IATA à Namur, pour ceux qui connaissent.
Et tu donnais quoi comme matière ?
Géographie.
Ok.
Voilà. Avec des élèves intéressés et intéressants, enfin qui venaient à l'école avec plaisir. Donc ça, c'est un grand luxe de l'enseignant, d'avoir des élèves qui sont motivés pour venir à l'école.
Et la géographie, pour des élèves qui sont dans des matières peut-être plus professionnalisantes, comment tu... Tu les accroches
Oui, en fait, la géographie, c'est une ouverture au monde pour comprendre le monde qui nous entoure. Donc, qu'il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui va les accrocher. Il y a évidemment des élèves qui y sont plus sensibles, mais j'ai même des élèves qui ont été faire des études universitaires en géographie, plusieurs après. Donc
c'est
voilà, pour moi, je me suis dit, waouh, quelle victoire.
Génial.
C'était pas mon but, mais...
Et donc pendant ces années, tu travailles, tu construis ta famille.
Exactement, les deux. Et puis en parallèle, on habitait en Belgique, mais mon cœur de Bretonne avait besoin de retourner se ressourcer en Bretagne, chose que l'on faisait régulièrement. Et puis de fil en aiguille, on a eu un premier logement de vacances qui était à Vannes, qui est devenu plus tard le Gîte Le Victor, où on a passé des très belles vacances. On allait se baigner tous les jours parce que Vannes, c'est la ville, mais c'est aussi la mer. En fait, il y a une piscine d'eau de mer dans le golfe du Morbihan, dans la ville de Vannes, sous la pinède. On allait manger la petite crêpe le soir avec nos enfants. Et puis, les enfants ont grandi et on a voulu accueillir notre famille et nos proches en Bretagne. On a voulu leur partager, en fait, ces moments de plaisir que l'on passait là-bas. On s'est mis en quête d'une... grande maison pour pouvoir accueillir. Ça, c'était le projet initial il y a 14 ans.
D'accord.
Voilà, il y a 14 ans. Et alors, on a dressé avec mon mari, on a dressé la liste de ce qu'on recherchait.
Vos critères.
Nos critères, et qui en fait sont restés les critères de tous nos gîtes de Kerouzec.
D'accord.
Donc des lieux historiques, des lieux avec du charme, des vieilles pierres, la nature à proximité, et quelque chose de déconnectant, en fait. Voilà, okay. Ça c'était nos critères. On a trouvé.
Le premier, du coup.
Bah alors le deuxième, parce que le premier est déjà était ce gîte urbain, mais qui était dans une bâtisse du 19e.
Ouais.
On allait à la mer tous les jours, donc on avait l'accès à la nature, un centre historique du Moyen-Âge. On est dans le centre historique, donc on avait ces critères pondérés de manière différente. Et puis là, on a trouvé quelque chose de différent, une ferme du 16e siècle, une ancienne ferme de château, entourée de nature, mais à 500 mètres des commerces. Donc on peut aller à pied faire ses courses. Et on a vu sur la forêt. Voilà, le coup de cœur total.
Ok.
Avec un peu de folie.
Et du coup, pour ce projet, vous faites ça avec uniquement la perspective de le partager à vos proches.
Oui,
alors
au départ.
Il n'y a pas de business plan à ce moment-là.
Non, à ce moment-là, il y a 14 ans, c'est vraiment dans l'idée on veut partager avec nos proches, nos amis, la famille. Et puis, on trouve cette maison, le coup de cœur total. Je dis de la folie parce que en fait il y avait des arbres qui poussaient dans la maison. Mais on n'a pas
nature,
vu ça.
Beaucoup de nature.
Il y avait des arbres qui sortaient des toits, qui étaient très beaux, des petits chênes là qui poussaient. Ouais. On a mis 3 ans avant de voir le jardin. On a découvert les murs en pierre qu'on n'avait pas vu parce que voilà, c'était. Voilà, on a un peu de folie quand on se lance dans ce genre de projet. Et puis la maison était plus grande que ce qu'on cherchait. Et donc on s'est dit, ben finalement, elle était structurée en 2 parties, une partie 16e, et puis au 18e, si on lui rajoutait une autre plus grande partie, on s'est dit, ben pourquoi pas faire un gîte où nos amis pourront venir de toute façon. Et puis quand ils ne viennent pas tout le temps non plus, on le louera, et nous, on aura notre maison de vacances à côté. Et puis voilà, de fil en aiguille, le premier gîte est né. L'expérience s'est très bien passée, ça nous a plu, et au fil du temps, les gens me demandaient « Ah, mais est-ce que tu as un gîte bord de mer ?» Et on disait « Non, non. » Et puis, on allait souvent dans la petite ville de Port-Louis parce qu'on aimait ce lieu. Ville historique, classée bâtiment de France, pas trop grande, sur une presqu'île, entourée de mer partout, donc la nature, accessible à pied. Une fois qu'on est là-bas, on fait tout à pied. Et puis, on y est allé 2-3 jours en vacances, parce qu'on essaie de découvrir des coins aussi pour faire partager. Donc, chaque année, on fait une petite excursion comme ça pour découvrir un nouvel endroit avec la famille. Et vraiment, là, c'était le coup de cœur, quoi. On aimait déjà, on connaissait l'endroit, mais d'y avoir passé plusieurs jours, le coup de cœur total. Et là, on s'est dit, ouais, si on ouvre un gîte, ça va être là. 3 mois plus tard, on avait trouvé notre petite maison de pêcheur.
D'accord.
Et le gîte suivant était lancé.
Ok.
Voilà.
Et toi, à ce moment-là, c'est toujours en faisant des allers-retours, ton activité, ta vie de prof toute l'année.
Alors, c'est ça. Je suis toujours prof à ce moment-là, maman de 3 enfants. Je gère. J'ai la chance, moi, je suis native de là-bas, d'avoir... des bons partenaires, on va dire, pour des entreprises sur lesquelles je peux compter pour faire les rénovations. Alors, ça se passe pas sans petits accros.
Oui,
hein,
ça
reste de la rénovation, avec des surprises quand on démonte, avec les aléas des entreprises.
Oui. Des autorisations particulières, j'imagine, pour ce genre de bâtiment.
Oui, dans tous, en fait. Dans tous nos gîtes, comme nous sommes dans des périmètres classés bâtiments de France, on travaille en préalable, en amont, avec l'architecte des bâtiments de France pour remettre en valeur ce patrimoine et ne pas faire n'importe quoi. Ce que nous recherchons, en fait.
Oui.
Voilà, on aime, avec mon mari, on aime ces vieux bâtiments. On a envie qu'ils soient préservés, donc on se prête avec joie à ces contraintes.
Ok. Donc un deuxième,
et puis voilà, ça se passe bien, on y passe du temps, on fait connaissance avec les voisins, on prend l'apéro avec eux, et puis de fil en aiguille, la voisine nous dit « Ah, je vais vendre ma maison ». Voilà, donc elle nous tend une perche et puis ben, on n'y avait pas pensé. On se dit, mais en fait, on a plein de demandes. On vient d'ouvrir le deuxième, il est rempli déjà pour l'été suivant. Mmh. Allons-y, l'opportunité s'est présentée. Et puis là, allez, un, deux, la question de la professionnalisation a commencé à arriver quand même.
Parce que j'imagine que pour pouvoir les louer, tu fais ne fût-ce que installer les gens, le nettoyage, tout ça.
Alors, j'ai des partenaires, c'est de l'organisation, j'ai des concierges qui sont sur place.
Ouais.
Mais ça demande quand même du travail de coordination, de promotion.
Ça.
On passe par le réseau des Gîtes de France, qui est un réseau de propriétaires de qualité.
Mmh.
Donc jusque-là, voilà, on travaillait avec eux uniquement. Ça se passait bien, plus le bouche-à-oreille, le réseau des mômes sur la Belgique.
À ce moment-là, tu es déjà chez les mômes ?
Oui, en fait, je suis rentrée chez les mômes un an avant avec un autre projet.
D'accord.
J'avais un projet de conserverie de légumes biologiques.
Maintenant que tu le dis, ça me dit quelque chose.
Et bon, le projet n'a pas abouti pour diverses raisons, mais on est aussi dans ses valeurs, développement durable. Voilà, c'était un projet avec des valeurs communes.
Mais du coup, tu avais pris pour ce projet-là un statut, c'est au niveau statut et...
Non, c'était à l'époque une situation de projet. Quand j'ai rejoint les mômes, j'étais en version porteuse de projet.
Mais pour les gîtes, administrativement... On peut, comment dire, on est obligé d'avoir un statut. Comment ça
Alors,
se passe?
Alors, ça dépend à quel niveau, en fait, on va dire l'intensité de son chiffre d'affaires. Enfin,
ouais,
le niveau
de
son chiffre d'affaires. Donc, au début, j'ai commencé avec un statut. Il y a un statut officiel de loueur de meublés non professionnels, mais c'est déclaré et ça demande des autorisations auprès des communes. Et puis, ben, avec les deux gîtes, on était sous ce statut-là. Et puis, le troisième gîte est arrivé. Le quatrième est arrivé, donc on a rénové le Victor, qui était notre première maison de vacances, est arrivé à 3 mois d'intervalle.
D'accord.
Donc, on a enchaîné en fait en 3 ans, 3 rénovations.
Oui.
Saupoudré de Covid.
Oui.
Donc, on a ouvert le gîte La Vedette juste l'été avant le Covid, et puis rénové pendant le Covid le gîte Le Victor et le gîte Le Malabar.
D'accord.
Donc là, on était en phase rénovation. Et puis en 2021, ben là, on a lancé, on a ouvert, on avait les 4 qui étaient ouverts. Et au niveau statut, je suis passée en loueur de meublés professionnel.
Ok.
Voilà.
Et du coup, tu as une gestion en France et une gestion en Belgique?
Alors, c'est officiellement une activité française.
D'accord, c'est ça.
Oui, voilà.
Pour la Belgique, tu n'as pas un statut particulier
d'indépendant? Non, ce qui est assez atypique, puisque je travaille de la Belgique.
Oui, c'est ça.
Pour une activité en France.
Ok. Que du coup, tu peux faire de n'importe où.
De fait. Je vois la suite de la question.
Parce que ça ne s'arrête pas là.
Ça ne s'arrête pas là. Oui.
Nos aventures.
Oui. Alors, je suis géographe, je crois, géographe dans l'âme, mon mari aussi. Et dans le cadre du travail de mon mari, nous sommes partis explorer, enfin bouger, en Oregon, donc au nord de la Californie, pendant un an.
En famille.
Et là, par la force des choses, j'ai arrêté l'enseignement.
Oui.
Voilà.
Ah, c'est ça. Jusque-là, tu étais toujours dans
l'enseignement. J'étais toujours dans l'enseignement.
Okay.
Alors, je dois dire que ça devenait quand même sportif.
Tu étais pas sur l'élastique, là.
Oui, quand même. Oui. Voilà. Avec le recul, j'aurais dû peut-être me poser avant. Mais bon, par la force des choses, ce départ en Oregon m'a obligée à me poser et me focaliser sur l'activité de location des gîtes.
Mmh.
Alors, obligé à poser, on a su qu'on partait.
Ouais.
En parallèle, j'ai ouvert un statut d'indépendant, une société en France pour organiser des événements de mise au vert dans les gîtes.
Mmh.
Alors, comme tout ça s'est fait au même moment que le départ, ça a été un peu... ça a été créé, j'ai accueilli mes premiers groupes. Je suis partie et je vais relancer l'activité parce que je viens de revenir des États-Unis.
Ouais.
Donc, il y a la location des gîtes pour, on va dire, les vacances, le côté plaisir. Et j'ai une activité maintenant en parallèle qui est liée d'accueillir des groupes pour des mises au vert. Donc, ce sont des coachs, qui louent les gîtes, qui organisent leurs événements, ou moi qui propose des mises au vert ressourçantes pour des professionnels qui veulent partir quelques jours et s'isoler et travailler sur leur projet. Donc chacun travaille sur son projet, il y a des moments de partage et de co-construction, mais c'est pas une formule, c'est une formule où on est en autogestion en fait, entre professionnels.
Ok.
Voilà.
Ok, ça veut dire que maintenant, tu es entièrement dévouée à cette activité.
Oui, maintenant, je suis à 100% sur cette activité, que ce soit la location des gîtes pour les vacances ou l'accueil de groupes professionnels dans les gîtes.
Okay.
Et l'année en Oregon, alors ça a été des voyages, des découvertes, des animaux fantastiques, des paysages incroyables, mais aussi une année pour me professionnaliser avec mes outils de gestion et de communication.
Alors, c'était justement une question que j'aime bien poser. C'est quoi ton matériel de travail? De quoi tu as besoin pour faire tourner ton activité?
Alors, pour faire tourner mon activité, la première chose, c'est mon magasin, ça veut dire mon site web.
Ouais.
Donc, en Oregon, typiquement, voilà, j'avais déjà un site, mais je l'ai refait. Avec un système professionnel de réservation en ligne qui est simple. Maintenant, les gens vont, ils trouvent le gîte, ils font réserver et en trois étapes, ils ont réservé, payé et ils sont autonomes. Ça a été vraiment une grosse avancée. L'automatisation, pour moi comme pour les autres, ça leur facilite la vie. Donc, ils vont sur le site Gîte de Kérouzec, ils réservent et voilà. Donc, ça, c'est le premier outil essentiel, primordial. Et puis, il y a les réseaux sociaux pour la communication, pour la page Instagram pour dire, les gîtes de Kérouzec, montrer ce que l'on peut faire pendant les vacances, voir les paysages, les activités, partager les choses d'activités que l'on peut faire en couple, en famille, avec la tribu. On a des gens qui louent les gîtes bord de mer, qui sont mitoyens, donc ils les louent plusieurs générations en fait dans les gîtes, donc les réseaux sociaux, la page Facebook aussi, et puis plus pour le côté professionnel de l'accueil des mises au vert, ma page LinkedIn.
D'accord.
Qui est encore à développer.
Et il y a des donc tu étais au départ dans sur la plateforme là des gîtes. Est-ce que tu as toujours des liens avec des associations professionnelles
de Oui. Alors, je suis toujours chez Gîtes de France. Oui. Une partie de mes clients viennent des Gîtes de France et une partie vient de ma plateforme, de notre site directement. C'est important d'échanger avec des professionnels de son domaine pour se donner des trucs et astuces, se renvoyer des clients. Voilà, c'est toujours bénéfique d'échanger avec des professionnels dans votre domaine et même en dehors de son domaine. Dans le réseau des mums en Belgique, j'ai des, on va dire, partenaires privilégiés avec qui je travaille et j'échange et on grandit ensemble et on se professionnalise ensemble aussi.
Et au niveau gestion, est-ce que du coup tu vas avoir ta comptabilité que tu fais seule, des gens en France, en Belgique qui savent faire? Comment ça se passe?
Oui, alors, ça, c'est pas le côté que l'on voit, mais pour gérer une entreprise, il faut une comptabilité, il faut des plans financiers qui tiennent la route. J'ai la chance d'avoir une certaine aisance avec les chiffres et une expérience du fait que j'étais directrice financière dans ma précédente vie professionnelle. Donc, je chapeaute, je gère quand même ma comptabilité concrètement et je fais mes plans financiers. Mais j'ai un expert comptable qui m'accompagne en France.
D'accord.
Voilà. Okay. Parce que les comptes doivent être validés, certifiés, et qui m'accompagne dans le montage de plans financiers. Là, on a un nouveau projet en cours. Clairement, l'expert comptable a été plus loin dans l'affinement du plan financier.
Et du coup, tu as besoin à un moment d'emprunter. Quand il y a un nouveau projet, un nouveau gîte, j'imagine que ça se finance.
Oui, c'est des montages financiers. Alors, sans rentrer dans les détails, mais c'est quand même des emprunts conséquents. Mm-hmm. Surtout qu'on est dans une zone touristique, prisée. Les bâtiments sont des bâtiments qui ont un coût. Et nous, on n'en a pas encore parlé, mais on met un point d'honneur à les rénover de manière la plus écologique possible.
D'accord.
Donc du coup, ben, ça veut dire que c'est une rénovation qui est plus onéreuse qu'une rénovation classique, clairement.
Et du coup, est-ce qu'il y a des, comment on appelle ça, des certifications, des, tu vois, les petits macarons par rapport à la qualité
de... Oui, tout à fait. Alors, lorsqu'on a ouvert notre premier gîte, la Maiterie Saint-Michel de Quinipilly, dès le départ, il était clair qu'on allait faire une éco-rénovation. Ce bâtiment du XVIe siècle, on allait le chouchouter, le remettre en valeur, on allait enlever le ciment des murs qui l'empêchait de respirer, on a mis de la chaux, du bois, enfin voilà, des matériaux les plus naturels et locaux possibles, et on a obtenu le label Écogite via les Gîtes de France, qui est un label qui avait été travaillé avec l'ADEME, pour ceux qui connaissent en France, qui est l'organisme de l'État qui, pour la promotion de l'écologie, en fait, hein, de l'environnement. On a été les premiers à l'avoir.
D'accord.
Voilà, donc bravo. On était pionniers. Et maintenant, nous sommes accompagnés par le Comité Régional du Tourisme Bretagne, donc par Tourisme Bretagne, pour labelliser tous nos, toute notre activité avec l'écolabel européen. Donc d'accord. La petite feuille verte. Okay. Voilà, donc c'est en cours.
Hein. Ok, super, super. Est-ce que dans toute cette aventure, tu avais des craintes particulières ? J'ai l'impression que tu as été légère, mais peut-être que...
Oui. Ben, j'ai un peu ce côté-là où je vais foncer, mais si, j'ai... voilà, que je rassure tous les entrepreneurs. J'ai de temps en temps des petits mal de ventre. Ben, quand même, la crainte, c'est de se dire, voilà, si je n'arrive pas à louer, si je n'arrive pas à remplir, comment je fais les premières années, parce qu'au niveau liquidité, c'est conséquent. Un gîte pour arriver à l'équilibre financier, il faut 3-4 ans.
D'accord.
Avant d'arriver à un bilan qui commence acceptable. Mmh. Enfin, où on paye les factures.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, c'est toute une gymnastique en fait de business plan qu'il faut monter en intégrant le fait que les premières années, on est largement déficitaire, ne serait-ce que pendant la période des travaux, on a des coûts, on ne peut pas louer.
Et puis le Covid, quoi.
Et puis le Covid, voilà. Donc l'entrepreneur, il doit aussi prévoir l'imprévisible.
Okay. Est-ce qu'il y a des conseils que tu as reçus, que tu as trouvés utiles et qui seraient intéressants à transmettre, ou que tu aurais aimé avoir
Alors, oui, alors, mon frère est entrepreneur aussi. Il a repris, il avait différentes entreprises, mais notamment la scierie familiale. On est dans le bois, hein, dans la famille, donc la côté voilà, matériaux nobles, on est sensibilisé depuis qu'on est tout petit avec mon frère. Il m'a dit, Marie, quand il a vu que je me lançais dans des plus gros projets conséquents, il me dit, prévois l'imprévisible, dans ton business plan, prévois que tu vas avoir quelque chose qui va faire que tu ne vas pas pouvoir travailler pendant plusieurs mois.
Ok.
6 mois après, le Covid est arrivé. Et là, je me suis dit, c'est incroyable. Ouais. Et donc, je l'avais prévu dans mon business plan. On l'avait travaillé avec le banquier. Et les banques sont réceptives à ça. Les banques sont réceptives au fait que vous prévoyez...
Des tampons.
Mm-hmm. Voilà. En tout cas, elles l'ont été avec moi. Et je pense qu'elles le sont avec d'autres entreprises, puisque lui m'avait donné ce conseil-là. Donc ça, j'ai envie de dire, oui, quand vous vous lancez, pensez à prévoir d'une façon ou d'une autre des tampons, et nous dans notre cas ça s'est fait par des emprunts, hein, voilà, des emprunts qui ont été postposés, mais c'était prévu dès le départ.
Ok, super, super. Dans ton organisation, à quoi ça ressemble une semaine d'entreprise? J'imagine elles sont pas toutes pareilles, mais...
Non, alors il y a des périodes, il y a des cycles dans l'année. Mais on va dire sur une semaine type, j'ai du temps dédié au suivi de projet. Donc là, on est sur notre 5e rénovation qu'on est en train de finir. Elle n'est pas encore finie, mais qu'on prépare un 6e projet. Quand est-ce qu'il verra le jour? Surprise. Mystère, le plus tôt possible. Mais voilà, tant que le projet n'est pas finalisé. Donc ça, vraiment, la partie projet, ça m'anime. Hein, ça prend 1 à 2 journées par semaine, en fait, chez moi quand même. La partie gestion quotidienne, communiquer avec les autres, qui ont réservé, prend du temps aussi, parce que je mets un point d'honneur à ce qu'ils aient des informations, qu'ils soient bien reçus. On leur prépare des petits guides d'accueil, On prend le temps de téléphoner pour avoir un coup de téléphone avant chaque location pour savoir s'ils ont des questions. Suivant le profil des autres, si c'est des familles, si c'est des couples, on fait des recommandations plus personnalisées, on va dire. Et puis, il y a la partie communication parce que, voilà, une entreprise, il faut qu'elle se fasse connaître. Donc, ça, je dédie une partie de mon temps à la communication, que ce soit les réseaux sociaux, le site. On ne sait pas tout faire. Donc, voilà, il faut mettre des priorités sur les outils de communication. Et puis, la gestion administrative et financière, ça prend une partie du temps.
Et toi, tu te rends sur place à quelle fréquence, tu dirais ?
Alors, je me rends sur place tous les mois.
D'accord.
Et je passe 3-4 mois par an en France, au total. Alors ça, c'est ma journée type, on va dire, quand je suis en Belgique. Quand je suis en France, l'organisation est un petit peu différente. Soit je vais visiter les chantiers, soit je vais rencontrer des partenaires. On va tester des nouvelles activités aussi, pour pouvoir les recommander. Je prends l'exemple, on a testé il y a quelques temps, en famille, il y a 3 ans, on a testé le kayak de mer. Alors, je suis contente de l'avoir testé pour pouvoir le recommander, mais avec des recommandations spécifiques. Parce que faut pas partir comme ça à l'aventure.
C'est sport.
Ouais, voilà. Moi, je connais la mer, je suis née là-bas. Les courants, je pense que tout le monde n'imagine pas à quel point ça peut avoir un impact sur l'activité. Donc, faut faire ça dans un milieu encadré. Mais pour ça, on a des partenaires qui le font. Voilà, moi je suis partie à l'aventure, c'était toute seule avec mes enfants et mon mari, je ne le recommande pas comme ça. Voilà, je guide les autres vers d'autres, vers des alternatives où ils vont pouvoir le faire dans un cadre sécurisé, bienveillant, ils vont pouvoir s'émerveiller sans se tracasser des courants.
Tu parles de tes enfants, quel impact tu dirais ton activité aujourd'hui a sur ta vie de famille ?
Alors, il y a des côtés positifs et des côtés moins positifs, hein, quand même.
Je peux te redemander, ils ont quel âge ?
Alors, ils ont 16, 14 et 9.
Ok.
Oui. Alors, le côté positif d'être indépendante, c'est la flexibilité. Ça, vraiment, il n'y a pas photo sur la vie de famille. Mais, parce qu'il y a un mais, la flexibilité a un prix, ça veut dire que j'ai beaucoup de disponibilité pour mes hôtes. Les gens m'appellent le week-end et donc ça veut dire que pendant une fête de famille, je peux m'absenter 3 quarts d'heure parce que, pour régler quelque chose, pour conseiller quelqu'un, pour un autre qui a des questions, quelqu'un qui veut réserver mais qui voudrait plus d'informations. Et ça, je me rends disponible pour les autres.
Oui. Voilà. Il n'y a pas d'autre interlocuteur que toi pour les autres ?
Avant les réservations, non. Pendant les réservations et au moment des séjours, il y a toujours des concierges sur place.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Pour avoir un service, quelqu'un, alors c'est quelqu'un qui est là en cas de besoin, en cas de question, pour faire l'accueil, pour faire le départ. On a des personnes relais de confiance qui sont sur place.
Super, super.
Voilà.
Ok.
Ce qui fait une équipe, l'équipage Kérouzek.
D'accord, d'accord. Waouh! Est-ce que tu t'imaginais être entrepreneur ou c'est venu par la force des choses?
Oui. Dès mon adolescence, en fait.
Ah oui?
Alors, on parlait des rêves. Ouais. J'ai voulu être enseignante, j'étais enseignante. Voilà, j'ai voulu avoir des vieilles maisons en pierre. Voilà, elles sont là. J'ai fait des études qui m'ont passionnée. Oui, très vite. J'avais cette fibre entrepreneur. J'avais l'exemple de mon grand-père aussi qui avait monté sa société.
Okay.
Et qui prenait beaucoup de plaisir. Oui, adolescente. Je faisais partie de projets où on vendait des choses. J'ai vendu des bijoux pour des associations humanitaires. Enfin voilà, ça a commencé très tôt. J'avais 13 ans, 14 ans que j'étais revendeuse pour une association humanitaire dans mon école. Alors au début, je le faisais comme ça, un petit peu en cachette. Puis un jour, j'ai été appelée par le directeur. Je me suis dit oui, oui, oui. Et puis en fait, il m'a juste demandé, il paraît que vous vendez des bijoux, j'en voudrais pour ma femme.
C'est
cool, voilà, et donc là j'ai pu asseoir mon premier business, on va dire, qui n'était pas pour moi, hein, mais voilà, qui était dans cette fibre entrepreneur, on va faire avancer un projet. Et il était clair que voilà, un jour je me lancerai. J'ai mis un petit peu de temps, la quarantaine. Je n'ai pas commencé tôt, mais je regrette d'ailleurs.
Ok.
Ouais, enfin je regrette. J'ai fait plein d'autres choses chouettes avant.
Oui, voilà. Oui, c'est ça. C'était finalement le bon moment.
Oui, et puis j'étais employée, mais en fait avec des positions où j'avais beaucoup, beaucoup de latitude,
ouais.
Et où je mettais en place des projets. À chaque fois, j'avais une position où je mettais en place des projets. Et donc, on retrouve ce côté-là.
L'esprit entrepreneurial était là.
Voilà.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Donc, il y a ce sixième projet qui fait tic-tac-tic-tac.
Ouais, ce sixième projet qui fait tic-tac-tic-tac. Et j'ai envie de dire... encore plus de professionnalisation, une plus grande visibilité, vraiment, parce que ça, c'est une clé quand même dans le succès du business. Que les écogîtes de Kérouzec grandissent, voilà, que dans quelques mois, on puisse dire qu'on ait reçu l'écolabel européen, qu'on ait finalisé. Ça, c'est plus des objectifs à court terme. Et à long terme, le développement de la partie d'accueil des groupes pour des mises au vert vraiment ressourçantes, travailler dans un cadre stimulant. Et j'espère, à côté des gîtes, avoir un lieu en fait, de télétravail pour que ces groupes aussi aient vraiment des conditions optimum. C'est déjà bien, mais que ça soit encore mieux.
Ok. Des coworking de Kérouzec.
Exactement, exactement. Okay. Bon, c'est un peu le principe des mises au vert, hein, oui. Que nous, on organise. En septembre, il y en aura un. Les entrepreneurs viennent, on se met ensemble, on travaille chacun sur notre projet, mais on coworking pendant plusieurs jours, dans sa bulle focalisée sur son projet, quoi.
Pourquoi pas des podcasts de Kérouzec ?
Pourquoi pas des podcasts de Kérouzec ? Voilà.
Tout est possible, quoi.
Voilà, tout est possible.
Chouette.
Ouais.
Merci beaucoup.
Merci, Jessica.
Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Je sais pas si toi, tu avais d'autres choses que tu voulais faire passer ou ajouter.
Eh bien, si vous voulez découvrir les gîtes de Kérouzec, le côté cocoon en images, je vous invite à visiter le site qui est www.gite.com. au pluriel de Kérouzec, DEKERUZEC.fr. Et je dis Kédavo.
Merci beaucoup. De toute façon, je mets à chaque fois toutes les coordonnées, je te redemanderai les coordonnées pour que les gens, évidemment, puissent aller rêver et puis se projeter dans tes beaux lieux.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci Jessica.
J'ai adoré avoir une invitée qui réalise ses rêves les uns après les autres et en découvre de nouveau avec gourmandise et curiosité. Quel plaisir ça a été d'entendre Marie allier passion, professionnalisme et ses valeurs éco-responsables. Un énorme merci à elle de nous avoir ouvert la porte de son bel espace de récréation. Personnellement, j'ai pas pu résister à y booker une semaine pour cet été, mais j'ai pensé à vous, j'ai fait mes devoirs et l'épisode du 8 août est déjà dans la boîte pour vous garder bien motivé jusqu'à la rentrée. Et un petit teasing, je vous annonce qu'on va bien rigoler. Alors à bientôt pour de nouvelles récréations.